Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité.
Ben, on aura droit à un match revanche entre Joe Biden et Donald Trump lors des prochaines élections présidentielles américaines. Mais est-ce qu'il y a un troisième joueur qui va venir mêler les cartes? On entend de plus en plus le nom de Robert Kennedy Jr. Trump s'attaque d'ailleurs de plus en plus à lui également. On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane.
Salut Alexandre. En fait, j'avais envie ce matin de faire ma petite Macédoine d'angoisse à la démocratie serait menacée. Macédoine, parce que je vais mélanger les carottes, les patates puis d'autres choses. D'ailleurs, dans une Macédoine, qu'est-ce qu'on retrouve? Il me semble qu'il y a des haricots, il y a des petits cubes de carottes. Enfin, il y aura un peu de tout dans ma Macédoine ce matin. Tu parles de Robert Kennedy. C'est pas la première fois qu'on aborde la question parce que c'est la formule que j'aime employer. Il est l'empêcheur de voter en rond. Et aux États-Unis, on est dans un cas de figure quand on parle de la santé de la démocratie, où les principaux acteurs sont très convaincus quand ils nous disent « moins il y a de choix, plus il y a de démocratie » parce que c'est un duopole, il y a deux partis qui contrôlent les affaires, les démocrates et les républicains. Et en ce moment, ce qu'on voit, c'est que les deux, M. Trump et M. Biden, sont plutôt d'accord pour dire que Robert Kennedy Jr. est une nuisance. À ce jour, il faisait statistiquement moins mal à M. Trump qu'à M. Biden, et je pense que c'est encore le cas. Je crois qu'il y a une majorité, ou enfin pas une majorité, mais une plus grande proportion d'électeurs démocrates qui sont tentés par la plateforme de M. Kennedy, qui est aussi liée à la famille célèbre des Kennedy, qui sont le symbole encore vivant du Parti démocrate.
Mais sa famille ne l'appuie pas.
Ça fait mal. Non. Les frères et sœurs, on pourra en parler dans quelques instants, le dénonce parce que justement les Kennedy sont de bons démocrates, ils savent où est leur fonds de commerce et ils vont pas déserter le parti. Et je pense qu'en deux familles, ils ont choisi la famille démocrate plutôt que la famille Kennedy et leur grand frère Robert Kennedy qui est un peu le pestiféré de la famille. Et là, ce qu'on découvre, c'est que Monsieur Trump commence à trouver que pour lui aussi, ça sentait pas la soupe chaude, mais il y a comme des inconvénients à le voir continuer à progresser ou à tout le moins à se stabiliser là où il est dans les sondages, parce qu'il fait quand même entre, selon les sondages, 7 et 10, 11%. C'est beaucoup de monde. Monsieur Robert Kennedy a eu la malencontreuse idée de dire publiquement qu'il avait été approché par l'équipe de Monsieur Trump pour être son colistier. Ça a eu l'heure de le fouetter, Monsieur Trump, parce qu'évidemment, on ne dit pas ce genre de choses. Il a nié. Et là, Monsieur Trump dit plutôt que s'il avait à choisir pour un colistier entre Joe Biden et Robert Kennedy, il prendrait Biden. C'est pour dire le mépris qu'il a pour celui qui, en ce moment, est vraiment la mouche du coche, celui qui pourrait empêcher l'un ou l'autre des candidats d'obtenir son morceau de gâteau, parce qu'on le sait, il y a pas vraiment de chance qu'il soit sacré président des États-Unis en novembre prochain, mais il a les outils et l'appui pour saboter la campagne de l'un ou l'autre des candidats. Je pense que à ce jour, c'est encore M. Biden qui est le plus menacé par la présence de Robert Kennedy. Mais si Trump en parle aujourd'hui, c'est que ça le chatouille aussi. Mais l'essentiel, puisque je te promettais une Macédoine sur les élections américaines, c'est qu'on est encore dans une réalité aux États-Unis où moins, c'est plus. Donc, moins il y a de candidats, moins il y a de partis, mieux c'est pour la démocratie. J'en suis pas convaincu parce qu'une majorité d'Américains, toute affiliation politique confondue, ne veut pas des deux candidats qui sont présentement en lice, M. Trump ou M. Biden. Alors, on pourrait dire, on pourrait garder deux partis avec deux nouveaux candidats puis ça solutionnerait l'affaire. J'en suis pas certain. Je crois sincèrement qu'un peu plus de choix de pluralité pourrait ajouter en tout cas quelque chose à l'équation, mais c'est pas demain la veille parce que le système est fait pour honorer deux partis. C'est blanc-bonnet, bonnet blanc. Puis c'est une forme de rapt démocratique où on dit t'as vraiment le choix entre deux couleurs, puis contente-toi de ça. Je suis pas certain que ça soit particulièrement dans un monde aujourd'hui où les choses sont complexes, sont difficiles. Alors, il y aura des gens pour dire, ça force les partis, les grands partis, à faire vivre chez eux, en leur sein, toutes sortes de factions et de les arbitrer qui ne pensent pas exactement la même chose. Il y a une extrême gauche, pour ce que veut dire l'extrême gauche aux États-Unis au sein du Parti démocrate, qui est très, très loin de la droite du Parti démocrate. Donc, est-ce que c'est une bonne idée que les tensions politiques s'arbitrent au sein d'une famille plutôt qu'elles soient fractionnées, représentées par différents partis? On peut en débattre longtemps, mais moi, je suis assez convaincu que les Américains vivraient auraient une vision différente de l'état de leur démocratie s'il y avait davantage d'offres pour canaliser leurs différentes envies. Or, pour l'instant, c'est encore et pour toujours, je le pense aussi, un duopole. Et là-dessus, les deux candidats sont d'accord.
C'était quoi ses principales prises de position à Robert Kennedy Jr. qui a fait en sorte que même sa famille s'est éloignée de lui? Puis est-ce que son nom va pouvoir être sur l'ensemble des bulletins de vote?
Ben, deux questions, effectivement. Je pense que son discours plus que critique sur l'obligation vaccinale, par exemple, a été, pour la famille, ce qui a été le plus difficile à supporter. Okay. Parce que c'est le discours qui sort des clous. C'est absolument inadmissible sur la place publique. Il a aussi laissé entendre que le vaccin pouvait avoir des effets secondaires importants, qu'il fallait se méfier du vaccin. Or, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, c'est évidemment quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Il a incarné ça. Et sur les politiques vaccinales, depuis un certain temps, M. Kennedy pose des questions. Il y a une époque où il était beaucoup plus fréquentable quand c'était l'avocat vedette d'un groupe écologiste. Et là, à ce moment-là, tout ce qu'il disait était vert et les signaux étaient au vert. C'est moins le cas aujourd'hui. Il a critiqué très sévèrement, tu t'en souviens probablement aussi, le docteur Fauci. Et c'est un autre des tabous qu'il ne faut pas secouer. Sur la question de sa présence sur les bulletins de vote, c'est pas gagné encore, c'est très compliqué, on en a aussi déjà parlé. Il faut mobiliser des centaines de milliers d'électeurs, aller chercher des signatures. Les règles sont différentes dans les 50 États, mais c'est pas gagné pour l'instant qu'il sera présent partout aux États-Unis, mais je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il y arrive.
Joe Biden s'est entretenu avec l'animateur Howard Stern.
On est toujours dans notre Macédoine démocratique.
Deuxième étape.
Plusieurs disent, le New York Times entre autres, comment se fait-il que le président ne parle pas davantage avec les médias traditionnels? On pourra revenir sur ce que ça dit des médias traditionnels, mais de fait, Monsieur Biden ne parle pas souvent avec les grands réseaux de télévision accrédité ou avec les journalistes qui font pour métier de couvrir la politique. Il était la semaine dernière chez Howard Stern. Tu te rappelle sans doute du personnage, parce qu'il est conséquent dans le paysage américain. C'est probablement le rendez-vous où un candidat qui a un peu le balai dans le derrière peut donner l'impression qu'il est cool. C'est le fou du roi. C'était le fou du roi. Je pense qu'aujourd'hui, il est parfaitement édenté, Howard Stern. C'est un faux provocateur. C'est quelqu'un qui est pour... ça va avec le fait qu'il n'y ait plus de dents pour le consensus mou, mais ça donne toujours l'impression d'une audace. Le président va aller. Or, c'était une entrevue de complaisance. Je ne te compte pas de pipe. Il y avait là aussi un jeu de mots pervers que je ne vais pas accentuer. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Monsieur Biden n'a jamais été mis à risque. Et il a menti à répétition, comme il le fait, mais c'est comme si on avait eu les perles, les meilleures perles de ses mensonges qui les grainent à l'occasion, mais là, on a le collier complet. Il a rappelé à un moment donné qu'il avait été un conducteur de 18 roues, qu'il avait eu son permis. Faux. Qu'il avait été arrêté sur le perron d'une maison de ses voisins noirs à l'époque qu'on luttait contre la déségrégation au Delaware. Faux. Pas avéré.
Ah ouais.
Qu'il a sauvé 6 personnes quand il était lifeguard, possiblement, mais à aucun moment on lui a demandé de démontrer ça, on n'a jamais entendu parler de ça. Récemment, ça s'est pas passé chez Howard Stern. J'en parle pas parce que j'ai envie de diaboliser particulièrement M. Biden. Il se trouve que M. Trump est capable aussi d'avoir des Pinocchio et de voir son nez s'allonger.
C'est pas pire,
ou pas, ouais. Parce que s'il avait fallu qu'il s'allonge à chaque fois, il y aurait de la misère à rester droit devant. mais donc, si je parle de ces mensonges, c'est que le traitement des mensonges est différent. M. Biden, je pense que c'était il y a une dizaine de jours en Pennsylvanie, à un événement politique, a raconté l'histoire de son oncle maternel qui avait été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, abattu, je pense, au-dessus de la Papouasie. Et laisser entendre qu'il avait été dévoré par des cannibales. Ce n'est pas une blague.
Par des cannibales.
C'est ce qu'il laissait entendre. Alors, il l'a pas dit comme ça, mais c'était bon, il est arrivé qu'il a été abattu sur une île où il y a des cannibales. On n'a jamais rien retrouvé que les os. Il n'a pas précisé les os. Ça fait un peu trop Flintstone. Mais Tout ça pour dire que la Maison-Blanche, par la voix de sa porte-parole, a été obligée de dire ben oui, effectivement, il n'a jamais voulu laisser entendre que son oncle avait été dévoré. Alors, il y a une espèce de propension créative à raconter sa vie. Alors, est-ce que c'est parce qu'il le croit et s'est inventé des souvenirs? Il rappelait justement avec Howard Stern, parce qu'il y a il y a toujours des moments plus lubriques quand on va chez Stern, qui aime beaucoup parler de cul, de toutes ces choses. Toutes ces choses. Il n'y a pas tellement d'autres choses une fois qu'on a nommé ce dont il s'agit.
Mais donc, il n'a pas raconté des histoires intimes avec, avec son épouse.
Ben, ce qu'il disait essentiellement, c'est qu'à l'époque où il était sénateur, c'était particulièrement au tout début de sa carrière, un des 10 célibataires les plus convoités de la capitale et qui recevait des photos coquines nombreuses d'admiratrices.
Par la poste.
Et qui les donnait au Secret Service parce qu'il ne savait pas trop quoi faire avec ça. Peut-être se disait, ma vie est en danger, je vais être attaqué, on va vouloir s'en prendre à mon corps.
Un soutien-gorge.
Or, il n'y a pas de Secret Service. Les services secrets ne protègent pas un sénateur, jamais. La première fois qu'il a été pris en charge par les services secrets, c'est peut-être quand il a fait campagne au présidentiel, de façon certaine en 2008, quand il est devenu vice-président. Donc, c'est une série d'anecdotes, j'insiste, pas pour le diaboliser particulièrement, parce que c'est à peu près accepté, c'est jamais noté. Or, son adversaire, peut-être ment-il davantage, est systématiquement montré du doigt pour ses arrangements avec la vérité. Et là, il y a comme un traitement à géométrie variable. Peut-être peut-on s'entendre pour dire que les mensonges ou les demi-vérités de M. Biden sont moins conséquentes que celles du président. Puis c'est vrai qu'il y a un mensonge qui est jamais pardonné, si tant est que ce soit un mensonge à M. Trump, c'est d'avoir menti sur les résultats des élections. Et moi, je dis, il faut faire une distinction très importante parce qu'il y a contester le résultat des élections, dire que des malversations sont possibles et accepter le résultat des élections. M. Trump a fait une erreur qui ne lui est pas pardonnée, qui ne lui sera jamais pardonnée. Il a refusé d'accepter le résultat des élections. Contester les élections, c'est une autre affaire. En 2016, Madame Clinton a dit qu'on lui avait volé les élections. Elle les a contestées. Monsieur Gore a contesté les élections en 2000, puis il avait toutes les raisons de le faire. Et peut-être qu'il se laissait fait voler les élections par la Cour suprême, par les accointances qu'avait George Bush avec son frère, qui était gouverneur de la Floride. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Et historiquement, il n'y a pas une élection qui n'a pas été contestable. Monsieur Gore s'est rallié rapidement, a accepté la décision de la Cour suprême et n'a pas contesté. Est-ce qu'il a accepté? Donc, est-ce que M. Trump ment quand il dit qu'il y a des questions sérieuses à se poser sur les résultats électoraux? Moi, je pense qu'il ne ment pas, c'est-à-dire qu'il y a des questions à se poser. Est-ce qu'il l'aurait gagné? Je peux pas le dire. Est-ce que des malversations? Il y en a certainement. 2020 est un cas de figure intéressant parce que c'est un changement de paradigme dans un système électoral qui est déjà complexe puis perclus de rhumatisme, disons, pour faire sympathique. 46% des électeurs américains ont voté par correspondance. 46%. C'est beaucoup, beaucoup de monde. C'est plus du double qu'en 2016. Alors, à l'époque, on disait c'est à cause de la COVID. Mais est-ce qu'il est possible d'imaginer que, à la faveur d'un vote par correspondance, il y ait un peu plus de marge pour jouer dans les résultats? C'est une question tout à fait légitime qu'on peut se poser. Et il se trouve que les républicains ont été beaucoup moins habiles, et c'est la faute des républicains et de M. Trump, à convaincre leurs électeurs, leurs supporters, à voter par correspondance. C'est 60% des démocrates en 2020 qui votent par correspondance versus 32% des républicains. M. Trump, pendant des mois, va dénoncer les possibles dérives démocratiques en disant « vote par correspondance, faites pas confiance à ça ». Pas de raison de pas y faire confiance. Historiquement, ça existe toujours. C'était beaucoup pour les militaires qui sont loin des États-Unis, les citoyens américains qui sont pas sur le territoire. On leur disait, vous pouvez évidemment voter. Mais là, c'est devenu la solution miracle dans un contexte où en 2020, je le rappelle encore une fois, il fallait pas trop être collés les uns ces autres. 28% seulement des Américains en 2020 ont voté en personne le jour des élections. C'est un changement, quand je disais, de paradigme important. Alors, est-ce que ça signifie que tout est pourri au royaume des élections? Non. Est-ce que ça signifie qu'on peut se poser des questions et qu'il y a eu certaines démonstrations, des fois anecdotiques, de ce qu'il y a? Il y a eu des façons de faire qui n'étaient pas optimales. Ben, c'est tout à fait possible. Alors, je reviens au mensonge. Monsieur Trump est régulièrement accusé d'avoir menti sur les élections. Je pense qu'il a surtout refusé de les accepter. Puis entre les deux, il y a ce que la justice nous dira. Est-ce qu'il a activement fait en sorte de renverser le résultat électoral?
On discutait.
Mais c'est une autre chose. Ouais. Et ça nous amène à parler peut-être des médias.
Ben oui, parce qu'on discutait tantôt de la disponibilité média du président Biden. Il y a des gros joueurs de l'industrie, notamment de la presse écrite, qui déplorent le fait que Joe Biden, lorsqu'il sort dans les médias, ben choisit des médias qui ont une certaine complaisance envers lui.
Est-ce que M. Legault fait différemment au Québec? Est-ce que M. Legault sera médias, très point. Disponible au... Ben exactement.
Oui, donc,
M. Biden n'est pas le seul. Oui, ou alors il va faire une dégustation de cuisine ethnique sur un podcast, puis il va combien fou. C'est beau dire, puis oh ma foi c'est audacieux, c'est bon, mais qu'est-ce que c'est? Mais ça lui évite évidemment de répondre à des questions plus pressantes, plus épicées, disons les choses comme ça. Alors M. Biden n'est pas unique. J'ai vu plusieurs journalistes, la presse s'indigner de ce qu'aux États-Unis effectivement le président choisissait, mais ça dit quelque chose peut-être aussi de l'état de la presse, de ce qu'il est facile pour un politicien de court-circuiter les médias traditionnels parce que les électeurs, parce que les citoyens ne sont plus au rendez-vous. Aux États-Unis, c'est 32% des Américains qui disent être satisfaits ou très satisfaits du travail des médias traditionnels. Je serai cette semaine en contact avec un journaliste qui a 50 ans, 55 ans de métier au compteur, André Bercoff, animateur à Sud Radio, qui me disait, et je sors mes lunettes pour bien m'assurer d'avoir la citation, « Les médias sociaux ont détruit le monopole de la vérité révélée d'en haut. » Et il y a un peu de ça. Alors, est-ce que tous les médias sociaux sont un bienfait pour la démocratie ou pour l'exercice de l'information, le sain exercice de l'information? Je ne pense pas, mais ça a secoué très sérieusement le monopole de l'information. Et aujourd'hui, apparemment, ça ne vexe plus les électeurs, les citoyens, de voir leurs candidats, leurs politiques choisir d'autres tribunes parce que, peut-être, et c'est notre problème à nous, hein, c'est nos enjeux, on ne croit plus tellement en notre travail. Donc, que M. Biden soit là ou pas, ça ne vexe pas les électeurs démocrates. Je pense qu'effectivement, il y a de bonnes raisons de vouloir lui poser des questions sérieuses. Il y a des gens compétents pour le faire. Ils peuvent être sur des réseaux alternatifs, des médias alternatifs, mais ils peuvent aussi être dans les grandes organisations de presse, évidemment.
Actuellement, Stéphane, le succès de l'heure au cinéma, c'est Civil War, mais est-ce que c'est une prophétie de ce qui nous attend là dans un court moyen futur?
Ben, c'est ce que le cinéma souvent arrive à faire avec un génie certain, hein, de Matrix. Ça ressemble des fois au monde dans lequel on est.
Oui.
Minority Report, à l'origine, une nouvelle, mais un film aussi qui a eu beaucoup de succès. Je me posais la question en allant voir le film la semaine dernière. J'étais un peu en retard, mais je suis en France. C'est arrivé un peu en retard sur nos écrans. J'ai été, moi, saisi par la réaction anxiogène que ça... L'as-tu vu?
Je l'ai pas vu encore.
Anxiogène parce que c'est crédible. Tu y crois. Tu découvre les journalistes qui sont à New York dans l'hôtel où les correspondants de guerre civile, sont réunis. Ça ressemble étrangement aux hôtels dans lesquels se retrouvent les journalistes quand ils vont couvrir une guerre civile. Par exemple, en ex-Yougoslavie, pays qui ressemble beaucoup au nôtre, et soudainement, les gens se tirent les uns sur les autres dans la rue. Avec un gag formidable dans le film, hein, quand ils vont à une station-service, espèrent être ravitaillés, sont accueillis avec des gens avec des armes et qui offrent 300 $ américains. J'ai vendu le punch. Puis ils disent... 300 $ canadiens. Et là, il dit, oh oui, parce que dans ce monde de guerre civile aux États-Unis, le Canada est un îlot de stabilité où le dollar canadien vaut tellement plus que le dollar américain. Le gag était pas mauvais. Mais je dis, alors, anxiogène, mais ça nous fait oublier qu'aux États-Unis, dans les années 70, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements sur les campus universitaires, dans les années 70, il y en avait beaucoup. Le mouvement de contestation de la guerre, ça a pas mis le pays à feu et à sang, mais il y a eu plusieurs mouvements révolutionnaires. Les Weather Underground, on oublie que c'est des milliers de bombes qui ont explosé aux États-Unis, sans faire beaucoup de morts, mais le pays était extraordinairement instable et on a oublié cette portion-là de l'histoire. Aujourd'hui, ce l'est effectivement, et je pense qu'il y a des éléments qui pourraient nous faire penser qu'une guerre civile est possible, à commencer par la polarisation, peut-être pas unique, mais assez exceptionnelle quand même dans le registre de la politique aux États-Unis, à Washington très particulièrement. Puis deuxièmement, en pensant à ce possible conflit ou cette guerre civile. Ce qui m'amuse, puis ça sera notre boucle que je vais boucler, c'est que l'administration Biden, en ce moment, elle vend l'idée que ça sera le chaos si M. Trump devait être élu. Or, aujourd'hui, 4 ans après son départ, le pays est pas mal chaotique. Ce qui se passe sur les campus, qui nous rappelle les années 70, c'est pas sans précédent, puisque c'est déjà arrivé, mais crée cette impression-là. Cette division, cette violence larvée, elle n'est pas le fait, je dirais, de M. Biden ou des démocrates uniquement. C'est une tension, mais quand on nous met en garde en disant « faites attention, s'il fallait que le Trump revienne, ça serait le bordel », je dis « ben, est-ce que ce n'est pas déjà un peu ?» Dans quel état est notre démocratie malmenée, mais je dis notre démocratie, c'est celle de notre voisin, mais elle apaise chez nous. Elle est malmenée, mais je pense pas qu'elle soit à ce point en danger. En fait, je crois qu'on met en scène nos angoisses, on projette beaucoup de choses et les indicateurs sont pas toujours ouverts. Mais je ne parierais donc pas, moi, sur le scénario de la guerre civile demain matin. Je suis un peu moins alarmiste. C'était ma conclusion optimiste à ma Macédoine démocratique. Là-dessus, je dis excellente fin de journée et c'est souriant que nous allons terminer ça.
Oui, et chef bureau, votre Macédoine était succulente.
C'était délicieux. Voilà.
Hein? Ah oui, on refait cette recette-là dans un prochain épisode. Merci.
Ciao.